Laisser sonnait mieux qu'abandonner, mais Pépé les appelait mère de ceux qui n'ont nulle part où aller. De tous les orphelinats, le jésuite pensait que l'albergue Josefino était le meilleur. Là-bas, les enfants te donnent la main, écrivit-il à Juan Diego. Il y avait une statue de la Vierge de Guadalupe dans la chapelle, une autre dans la salle de classe, et même une pendule à l'effigie de la Sainte, disait Pépé. Les filles pouvaient rester dans l'établissement aussi longtemps qu'elles le voulaient, certaines pensionnaires avaient déjà plus de 20 ans. Mais Juan Diego n'y aurait pas été admis, dans la mesure où l'albergue Josefino écartait les garçons de plus de 12 ans. « Ne meurs pas, surtout », avait écrit à Iowa City Juan Diego à frère Pépé. Ce qu'il voulait dire, c'était qu'il mourrait lui-même s'il le perdait. En cette soirée de réveillon à l'hôtel Encantador, au bord de la mer, combien y avait-il de médecins dans l'assemblée? 10, 12, peut-être davantage. Aucun d'eux, et en particulier la propre femme de Clark, le docteur Josefa Quintana, n'aurait conseillé à Juan Diego de sauter une prise de ses bêta-bloquants. Les médecins hommes, ceux qui avaient remarqué Myriam et qui l'avaient vu embrocher le gecko à la vitesse de l'éclair, auraient peut-être accepté de lui prescrire du Viagra dosé à 100 mg. Quant à alterner une fois rien, une fois double dose, une fois demi-dose de l'oppressor, il n'en était pas question. Même les médecins hommes le lui auraient déconseillé. Lorsque, durant le dîner, Myriam avait évoqué la mort de Lupe, Juan Diego s'était remémoré la façon dont sa petite sœur avait houspillé la statue défigurée de la Vierge Marie. « Je te demande un vrai miracle !» avait crié Lupe à la géante pour la mettre au défi. « Tâche d'accomplir quelque chose qui me décide à croire en toi. Tu veux que je te dise? T'es qu'une grosse brute. » Était-ce ce souvenir qui lui suggérait une ressemblance de plus en plus troublante entre Myriam et l'imposante Vierge Marie du Templo de la Compañía de Jesús? À cet instant indécis, Myriam passa la main sous la table et lui palpa sur la cuisse les petites proéminences dans la poche de son pantalon. « Qu'est-ce que c'est ? » murmura-t-elle. Il extirpa la tuile de Mahjong, la briquette historique. Mais avant qu'il se lance dans une explication, Myriam lui dit à voix basse « Oh non, pas ça. Je sais bien que tu trimbales toujours avec toi ce fétiche. Non, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta poche ?» Myriam avait-elle appris l'existence de la tuile de Mahjong à l'occasion d'une interview de l'écrivain? Aurait-il donné ce souvenir chéri en pâture à la vulgarité des médias? En outre, elle semblait subodorer la présence du Viagra. Dorothy avait-elle révélé à sa mère que Juan Diego en prenait? Il n'en avait tout de même pas parlé dans une interview. Ou alors... Son ignorance de ce que Myriam savait ou ne savait pas à propos du Viagra rappela à Juan Diego un bref dialogue à son arrivée au cirque, au moment où Edward Bonshaw, qui savait que Flore était une prostituée, avait appris qu'il était un travesti. Un épisode tout à fait fortuit. À travers l'embrasure d'une tente, ils avaient aperçu Paco, le nain travesti. Flore avait dit alors à l'homme de l'Iowa « Je fais mieux illusion, c'est tout, chérie. » Puis Lupe avait demandé « Il a compris, l'homme perroquet, que Flore a un zizi ?» Ce que Juan Diego s'était abstenu de traduire. El hombre papagayo pensait bel et bien au pénis de Flore. Celle-ci, qui n'ignorait pas ce que Señor Eduardo avait dans la tête, roucoulait à qui mieux avec lui. Le destin est partout, en toutes choses, se dit Juan Diego. Il songeait à Consuelo, la petite fille aux nattes, à sa manière de dire « Salut, mister !» Incroyable comme elle lui faisait penser à Lupe. La façon dont Lupe avait répété à Hombre « C'est rien. » « Je me suis laissé dire que tu aimes le fouet », avait murmuré Flore au missionnaire qui boitillait simplement parce qu'il avait de la merde d'éléphant sur ses sandales. « Le roi des porcs !» avait déclaré Lupe à la vue d'Ignacio, le dompteur. Pourquoi cet épisode lui revenait-il subitement en mémoire? Ça ne pouvait être seulement parce que Consuelo, la petite fille aux nattes, lui avait dit « Salut, mister !» Et que disait-elle de Myriam, déjà? C'est la dame qui apparaît comme par enchantement. « Ça vous ferait pleurer, vous aussi, si votre sœur avait été tuée par un lion !» avait lancé Myriam aux enfants. Plus tard, Pedro s'était endormi, comme ensorcelé, la tête sur sa poitrine. Juan Diego avait longtemps regardé ses genoux et la main de Myriam qui palpait le comprimé de Viagra contre sa cuisse droite. Mais quand il leva les yeux, il vit qu'autour de lui, tout le monde s'était mis un chapeau en papier sur la tête. Myriam arborait une couronne royale en version rose. Les cotillons étaient la plupart du temps dans des tons pastels. Il porta la main sur le haut de son crâne et toucha la couronne qui ceignait sa tête. « La mienne est... » commença-t-il.
« Bleu layette, » lui dit Myriam.
Quand il tapota la poche droite de son pantalon, il sentit la tuile de Mahjong, mais plus le comprimé de Viagra. La main de Myriam se posa sur la sienne.
« Tu l'as pris, » jugeota-t-elle. « Tu crois ?»
La table avait été débarrassée, pourtant il n'avait pas le souvenir d'avoir avalé quoi que ce soit, même pas le ceviche.
« Tu as l'air fatigué, » lui fit remarquer Myriam.
S'il avait eu un peu d'expérience avec les femmes, Juan Diego se serait peut-être douté qu'il y avait quelque chose d'étrange, voire un peu limite chez Myriam. Ce qu'il savait des femmes, il l'avait appris en lisant et en écrivant des romans. Dans les romans, elles sont souvent séduisantes, mystérieuses. Dans les siens, elles étaient aussi intimidantes. Faut-il s'étonner que les femmes de fiction soient un peu dangereuses? Dans la vraie vie de Juan Diego, les femmes n'arrivaient pas à la cheville de celles qu'il avait imaginées. Et cela expliquait sans doute pourquoi Myriam et Dorothy, bien supérieures à toutes les femmes qu'il avait connues, lui semblaient si attirantes et familières. Peut-être faisaient-elles partie de son monde imaginaire? Ce qui expliquait son impression de déjà-vu. Si les cotillons étaient apparus comme par enchantement sur les têtes des joyeux convives du nouvel an à l'Encantador, il n'aurait pas été davantage capable d'expliquer l'apparition, elle aussi spontanée, des musiciens, avec tout d'abord trois jeunes gens à l'allure débraillée, la barbe capricieuse, famélique, l'air de n'avoir rien mangé depuis des lustres. Le guitariste arborait sur le cou un tatouage qui ressemblait à une brûlure. Quant aux joueurs d'harmonica et aux batteurs, leur débardeur leur permettait d'exhiber leurs bras tatoués. Le batteur dans la thématique insecte, et le joueur d'harmonica dans celle des reptiles. Des vertébrés à écailles, serpents et lézards rampaient sur les bras nus du musicien.
Maximum de testostérone, minimum d'avenir, résuma Myriam cinglante. Le groupe s'appelait les Nocturnal Monkeys, les singes de la nuit. Sa réputation strictement locale reposait sur les épaules décharnées de la chanteuse, orpheline des rues squelettiques, affublée d'une robe bustier qui glissait sur sa poitrine menue. Ses cheveux noirs et ternes, grossièrement ratiboisés au niveau du lobe de l'oreille, offraient un contraste saisissant avec la pâleur cadavérique de son teint. Sa peau était d'une blancheur maladive, pas très philippine, se disait Juan Diego. Avec sa tête de déterré, elle aurait peut-être gagné à se parer d'un ou deux tatouages. Un insecte ou un reptile, sans aller jusqu'au barbouillage grotesque visible sur le cou du guitariste, aurait fait l'affaire. Quant à la dénomination du groupe, les singes de la nuit, Clark en devinait sans peine l'origine. Les Chocolate Hills, toutes proches, étaient un site emblématique de la région. Et les singes abondaient dans les Chocolate Hills. «
Il est vrai que les singes vivent plutôt la nuit, » remarqua Myriam.
« Parfaitement, » lui répondit Clark d'un ton mal assuré. « Si ça vous tente, s'il ne pleut pas, on pourra organiser une excursion dans les Chocolate Hills. Avec des amis, nous y allons presque chaque année.
Mais s'ils vivent vraiment la nuit, on ne pourra pas les voir, les singes, dans la journée, » fit observer Myriam.
« Vous avez raison, on ne les voit jamais, » marmonna Clark, qui osait à peine la regarder dans les yeux.
« À défaut, nous avons ceci, » dit Myriam en montrant d'un geste nonchalant les malheureux musiciens. Ils ressemblaient effectivement à des singes de la nuit. Tous les ans, un soir, certains d'entre nous entreprennent une croisière sur la rivière, hasarda Clark, de plus en plus agacé par les réparties de Myriam. On prend l'autocar jusqu'à l'embarcadère, il y a un petit port avec des gargotes où l'on peut manger. Après le dîner, on remonte la rivière en bateau, une sorte de vedette pour touristes.
La nuit ? Demanda Myriam, mais on n'y voit rien la nuit.
Si, on y voit des lucioles.
Il doit y en avoir des myriades. C'est très spectaculaire.
Qu'est-ce qu'elles font, les lucioles, à part luire ? Elles luisent de façon spectaculaire.